Tu te débrouilles, ça n'existe pas. Le mari ne peut pas dire à sa femme, tu te débrouilles. La femme ne peut pas dire à son mari, tu te débrouilles. Vous voyez? Parce que c'est un désistement. On ne doit jamais, et d'ailleurs c'est, on ne doit jamais se désister. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est un désordre. Parce que le mari a droit à ce que la femme le serve. Vous voyez, sous un certain rapport, comme la femme a, sous un certain rapport, bien compris, le droit que le mari prenne soin d'elle, bien entendu, c'est tout ceci va de pair. Mais ce n'est pas la même chose. Le mari a le droit que la femme le serve. Maintenant, il se trouve aussi que la femme qui se désiste, et d'une certaine manière, c'est vrai aussi pour d'autres états, mais la femme qui se désiste prend le risque de laisser son mari, par la nécessité, rentrer en quelque sorte dans sa sphère d'activité, dans son sphère de devoir, et s'y installer. La femme ne fait pas le repas. Pourquoi? Mais parce qu'elle a mieux à faire, je ne sais pas, elle est en correspondance, ou elle est que faire, elle est en train de lire un livre, elle est en train de préparer une conférence, que faire. Donc du coup, le mari se débrouille. Et si le mari commence tout d'un coup à prendre goût à faire la cuisine? Et si tout d'un coup, il s'aperçoit que sa femme est une sorte de souillon, qui fait très mal les choses, et que, en ayant assez que les choses soient mal faites, ils prennent les choses en main. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, le malheureux, d'une certaine manière, est dans une sorte d'état de survie. Il fait quelque chose parce qu'il n'en peut plus. C'est grave de pousser les gens à bout. Évidemment, on ne peut pas lui conseiller de continuer à faire ce qu'il fait parce que c'est un désordre. Mais la faute à qui? La faute à sa femme. La faute à sa femme. Il est toujours dangereux, mes très chers frères, et ça c'est vrai pour tous les états, il est toujours dangereux de se désister et de forcer les supérieurs à venir mettre leur nez inutilement, si j'ose dire, en tant que supérieur je le dis, à venir mettre leur nez dans les affaires des inférieurs. Pourquoi? Parce qu'après, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient constamment sur votre dos, parce que, non pas parce que tout d'un coup, ils sont dans le désordre et puis ils s'occupent des choses qui ne les regardent pas directement, mais c'est parce qu'ils n'ont plus confiance en vous. Vous voyez, si je me désiste, si je suis un inférieur et que je me désiste de ce que je dois faire et que je contrains mon supérieur à venir mettre son nez dans mes affaires et faire les choses que je ne fais pas, d'une certaine manière, il va continuer à le faire. Pourquoi? Pas tellement parce qu'il y aura pris goût, ça peut, mais pas uniquement, c'est parce qu'il n'aura plus confiance en moi. Le mari qui sait que sa femme fait n'importe quoi à la cuisine n'aura plus confiance en elle. Vous voyez, quand je dis la cuisine, c'est vraiment caricatural parce qu'il y a plein d'autres choses aussi. Vous voyez, il faut faire attention. C'est le principe de subsidiarité. Il ne faut pas, il faut que chacun soit parfait dans son état. Et il ne s'agit pas, évidemment, d'expulser le mari de la cuisine sous prétexte que le mari n'a rien à y faire et de continuer à faire des plats atroces. Parce que là, c'est une sorte de torture. Et évidemment, vous ne serez pas surpris si je vous dis que, eh bien, le retour de bâton peut être violent. Et il aura été bien mérité d'une certaine manière. Donc, vous voyez, pour une femme, il faut qu'elle comprenne que, pour la femme chrétienne, il faut qu'elle comprenne que si elle veut être bénie par Dieu, il faut qu'elle comprenne que son devoir d'État est un État qui lui donne pour supérieur direct son mari. Ce n'est pas un supérieur comme le supérieur est un supérieur de religieux, parce que le mari ne s'occupe pas tellement, disons, d'une façon en profondeur, de l'âme de sa femme. Il s'occupe du contexte, comme le roi ne s'occupe pas d'aller les gens, de faire aller ses sujets au ciel, mais il s'occupe à garantir que l'Église puisse faire en sorte que ses gens, ses fidèles, ses sujets aillent au ciel. Vous avez compris. Donc, il se trouve que la femme doit comprendre que si elle veut être bénie dans son devoir d'État, il faut qu'elle comprenne que son devoir d'État, c'est d'être en soumission à son mari, c'est-à-dire que cette soumission doit se manifester non pas par une sorte de passivité regrettable, qui, si elle était imposée par le mari, serait dommageable pour le mari lui-même, mais par cette soumission doit se manifester par une activité sans relâche, nuit et jour, et très sérieuse, de telle sorte que le cœur de son mari puisse mettre sa confiance en elle et puisse se reposer sur elle, sur toutes ces choses-là, d'une façon qui soit, si l'on peut dire, la plus entière, la plus totale possible. Bienheureuse et glorieuse est la femme dont son mari n'a pas à se défier. Allons encore un peu plus loin, mes très chers frères. La femme, donc sa lampe, nous avions dit, sa lampe ne s'éteindra point pendant la nuit. Elle a porté sa main à des choses fortes et ses doigts ont pris le fuseau. Elle a porté sa main à des choses fortes. Pour une femme chrétienne, il faut qu'elle s'occupe des choses qui relèvent, donc nous l'avons dit, de son devoir d'État, et des choses qui relèvent, nous rajoutons à ce que nous avons dit avant d'aller un peu plus loin, des choses qui relèvent indirectement de l'intérêt de son mari. C'est-à-dire que la femme n'a pas à s'occuper de choses molles, mais de choses fortes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas à s'occuper de futilités, de choses qui, d'une certaine manière, sont contraires aux intérêts de son mari, sachant que le mari doit prendre conscience et doit prendre connaissance de ce qui est de son intérêt. Il y a un certain nombre de choses qui relèvent de ce que fait la femme et auxquelles le mari n'a pas d'intérêt direct, mais il en recueille le butin, justement, il en recueille la gloire. Un certain nombre de choses qui ne regardent que les femmes et qui pourtant bénéficient au mari. La femme doit s'occuper néanmoins de choses fortes, de telle sorte qu'elle puisse, encore une fois, participer au règne de son mari. Allons un petit peu plus loin maintenant. Ces choses fortes sont donc, vous avez compris, en lien avec l'intérêt de son mari, l'intérêt réel de son mari. Pour une femme, s'occuper de philosophie, s'occuper de politique, s'occuper de toutes sortes de choses de littérature, évidemment, pour ne pas le nommer, relève de s'occuper des choses de la mollesse. C'est-à-dire, non pas que ce sont des choses qui sont molles et efféminantes, mais ce sont des choses qui ne sont pas des choses fortes, les seules choses fortes auxquelles elle doit s'appliquer. Il y a là quelque chose de très important sur lequel je vais insister beaucoup parce que aujourd'hui, on vit dans une sorte de. Nos contemporains sont dans un tel état de délabrement mental qu'ils s'imaginent parfois faire ce qui est droit, parce que tout le monde leur crie dessus parce qu'ils le font, alors qu'ils font encore ce qui est courbe. Pour une femme, s'occuper de philosophie, de littérature, de politologie, et même de théologie, de toutes sortes d'autres choses, c'est-à-dire de théologie, c'est-à-dire pas des choses de la piété, mais de la théologie, tout ceci relève du contraire des choses fortes, et tourne toujours en corruption. Encore une fois, les choses fortes concernent l'utilité des choses qui sont utilité à sa maison, de sa maison. Pour une femme, les choses fortes, relativement à la science dans laquelle elle doit exceller, ce sont des choses qu'elle doit enseigner à ses filles, de telle sorte qu'elle enseigne à ses filles la voie du service de leur mari, comme conformément à ce que dit saint Paul, qui est l'unique moyen de se sanctifier. Et là, j'attire votre attention sur quelque chose avant d'entrer dans le vif du sujet. Il se trouve que si une femme célibataire, qui plus est conférencière, blogueuse, etc., fait les meilleurs enseignements du monde, car il ne s'agit pas toujours d'enseignements mauvais, mais fait des enseignements du monde à des femmes mariées, il y a un désordre gravissime. Pourquoi ? Parce que c'est la femme mariée, et si j'ose dire, la femme mariée d'un certain âge qui a des enfants, et qui a eu des enfants, et dont les enfants sont dans la foi, qui a droit naturellement, et même sans avoir à le demander, et à recevoir le droit, elle a naturellement droit à enseigner les femmes plus jeunes. C'est saint Paul qui le dit. De telle sorte que, lorsque ce sont les jeunes qui enseignent les plus âgés, même si elles ont quelques années de plus qu'elles, il suffit que ce soit une célibataire qui enseigne une femme mariée, même si c'est une vieille célibataire qui enseigne une jeune femme mariée, il y a désordre. Pourquoi ? Parce que la femme mariée est dans un état de dignité beaucoup plus grand que celui de la célibataire, pour dire le moins, et a fortiori, comme la femme mariée ne doit pas s'occuper de ce qui la dépasse, mais doit s'occuper de ce qui relève sa science propre afin de la transmettre à ses filles, il est absolument impossible que cette science passe en tant que science aux femmes qui ont l'imprudence de l'écouter. Et souvent, les prêtres, malheureusement, qui sont bien souvent naïfs, disent « Regardez, ce sont des choses bonnes, qui s'est tout tiré des pères, des meilleurs auteurs, bon, de quelques prêtres modernistes, enfin on fait abstraction, et il se trouve que c'est une excellente conférencière qui a l'art de communiquer les choses, et donc je vais l'inviter pour qu'elle enseigne les femmes et les mères de famille, etc., qui sont toutes un peu écervelées, dans un état d'élabrement. » Eh, attention, 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 quel est le résultat ? Le résultat n'est pas anodin. Le résultat, en tout cas, n'est pas du tout le résultat d'une mère qui enseigne ses filles. Une mère qui enseigne ses filles fait, en quelque sorte, des filles à son image, c'est-à-dire elle fait des femmes, des futures femmes fortes. La blogueuse qui enseigne des femmes, a fortiori des femmes mariées, leur enseigne, mais dans le cadre d'une réalité dont on ne peut absolument pas faire abstraction. Lorsque la mère de famille suspend ses tâches ménagères pour écouter un podcast sur son smartphone qu'elle ne devrait pas avoir, ou sur son ordinateur, encore moins, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un désordre. Oui, mais c'est pour s'instruire. Non, elle ne s'instruit pas. Elle ne s'instruit pas. Elle s'instruit autant que quelqu'un qui regarde sur sa télévision, sur son ordinateur, un cours de, je ne sais pas, de culture physique. Est-ce que vous voyez qu'il va devenir musclé? Non. Alors vous allez dire, mais comment faire? Il va peut-être s'inspirer pour pouvoir faire des mouvements. Non, on ne devient musclé que quand on a un travail, qu'on est maçon, qu'on est charpentier, etc., que qu'on transporte des sacs de sable, qu'on transporte des briques, etc. C'est comme ça que vous avez des hommes qui sont, ou d'autres métiers de ce même genre, que vous avez des hommes qui sont forts, vous voyez, qui sont forts musculairement. Ce n'est pas, vous allez dire, on peut, et la plupart du temps, on ne peut pas. Et ça développe, et quand bien même on pourrait, ça développe le vrai et le bien dans un contexte qui est faux. Et aucune femme, aucune jeune fille qui aura appris le métier de femme, si j'ose dire, sur l'Internet ou dans des conférences, ne pourra devenir une femme forte. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas reçu par la voie de la tradition. Ce que l'on croit vient de ce que l'on entend, et les filles sont enseignées par les mères. À défaut par leur grand-mère, à défaut par leur tante, à défaut par des femmes âgées qui sont de l'Église et qui ont cette fonction reconnue par l'Église, etc. Bien entendu, je ne dis pas qu'il faut être trop littéral. Mais il se trouve qu'en aucun cas, on ne peut enseigner une femme, ne peut enseigner le devoir de la femme autrement que dans le cadre de la famille. C'est absolument impossible. Et qu'on ne vienne pas dire aujourd'hui on ne peut plus parce que si ça et l'autre, etc. On ne peut pas. Alors vous allez dire, et pourtant c'est comme ça, et d'une certaine manière les choses se sont équilibrées et rééquilibrées. Eh bien, je vais vous dire, ça existe évidemment. Eh bien, rendez-en grâce à Dieu. Rendez-en grâce à Dieu, là où le péché a abondé, dit saint Paul, la grâce a surabondé, là où, si j'ose dire, la gaffe a été faite, eh bien, la grâce de Dieu a compensé. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il ne faut pas dire, alors, mais j'aurais dû, etc. Peu importe le passé, il se trouve que maintenant, il faut arrêter. Et si il se trouve que, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, voilà, j'ai fait ceci, donc du coup, pour toute l'éternité, je suis dans une mauvaise voie. Ce n'est pas non plus ce que nous disons. Ce n'est pas ce que nous disons du tout. Nous disons simplement que, à un moment ou à un autre, lorsque la grâce est faite de prendre conscience qu'il y a un désordre, il faut résorber ce désordre, quand bien même ce désordre serait moindre qu'il aurait pu être grâce à des moyens illicites. C'est un petit peu, c'est un petit peu comme des fois dans la vie, ça commence mal et puis il y a des moyens de se mettre en ordre, de telle sorte que ensuite l'ordre règne et en quelque sorte absorbe et digère ce que l'on a fait autrefois, et à la condition, quelle condition? C'est qu'on n'en parle plus. J'ai fait des erreurs dans ma vie, il se trouve que, voilà, on peut dire, voilà, bon, si c'est autre, chacun peut voir pour soi. Et il se trouve que, par la grâce de Dieu, les choses sont revenues en ordre. Eh bien, par la grâce de Dieu, je ne vais plus parler de ce qui s'est passé. Je ne vais plus parler du désordre. Je ne vais pas dire, autrefois, j'étais dans le désordre, mais enfin, quand même, ça a servi au bien, et je pense que des fois, même si c'est un désordre, non, 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 il faut dire, mon Dieu, j'étais dans le désordre, je ne suis plus dans le désordre, Deo gratias. Maintenant, ce que j'ai fait était mal. Mon Dieu, merci d'avoir fait conclure ce mal au bien. Un point, c'est tout. Maintenant, je reste dans le désordre et je suis le désordre. Je reste dans l'ordre et je suis du verbe suivre l'ordre. Donc tout ceci pour dire qu'il ne faudrait surtout pas prendre la doctrine que nous avons dite pour un sujet de se désespérer ou de s'imaginer que certaines choses qui ont été faites, certaines gaffes, certains moyens qui ont été faits pour apprendre des choses discréditent. C'est totalement faux, c'est totalement faux. Dans la mesure où on est dans l'ordre, il faut rester dans l'ordre, il faut condamner le désordre, quand bien même le désordre aurait été un marchepied pour nous faire arriver à l'ordre. Les temps sont durs, nous le savons bien. Donc, vous voyez, mes très chers frères, la femme qui a la grâce d'être dans l'ordre doit transmettre à ses filles ces choses fortes qui sont dans sa main, de telle sorte qu'elle soit véritablement au cœur de la volonté de Dieu pour elle. Et qu'elle glorifie son mari de cette manière-là, qu'elle glorifie Dieu en servant son mari. Il y a encore d'autres choses que nous pouvons dire sur ce sujet. Il faut dire ceci, mes très chers frères, et ça c'est une chose très importante. Lorsqu'un fils à une mère, un mari, une mère, une femme, une sœur, qui se mêle de choses qui ne le regardent pas, et spécialement l'enseignement, il doit prendre conscience que non seulement elle fait quelque chose de mal, que non seulement elle fait quelque chose qui le déshonore, mais quand lui-même participe, peut-être pas pour elle, mais pour d'autres dans le même cas, à ces choses-là, il les déshonore aussi. C'est-à-dire que le mari dont la femme va faire des conférences est déshonoré par sa femme. Le père dont la fille est à l'université ou ailleurs, fait toutes sortes d'études et qu'elle se gargarise de, ou alors qu'elle fait d'études ou pas, hein, mais enfin qu'elle a une profession libérale qui fait d'elle une femme accomplie selon le monde et imparfaite selon, tout à fait imparfaite et désordonnée selon la tradition, il faut comprendre qu'il est déshonoré par elle. Il est totalement déshonoré en tant que père. Il est déshonoré par elle. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, évidemment, on parle des malheureux musulmans patriarcaux, ce qui est quasiment une oxymore, qui commettent des crimes d'honneur, c'est-à-dire lorsque leur fille pêche avec un soldat américain, il la tue, il égorge, les frères la trucident, etc. Bon, et on dit ce sont des barbares, etc. Ouais, ce sont des barbares. Ce sont des gens différents de nous, disons, là pour le coup. Et disons surtout que le père qui ne se sentirait pas violemment déshonoré par les écarts de sa fille, même pas par ces écarts-là, mais même par des paroles, par un regard, par une parole, le fait que sa fille parle comme ça, d'une façon libre à un garçon sans être marié, etc., et qui ne se sent pas déshonoré et qui fait tout pour éviter d'être déshonoré de la sorte, ce père-là, qui ne se sent pas déshonoré de la sorte, dis-je, ce père-là est complètement contre nature. C'est un type, il peut très bien se balader avec des plumes, etc., dans certaines parades, il est absolument contre nature. Un père, un mari qui ne se sent pas déshonoré par l'activité intellectuelle de sa femme, un père qui ne se sent pas, qui ne se sait pas déshonoré par l'activité de sa fille, n'est pas un père traditionnel, et donc il ne faut pas s'étonner à ce que ces gens-là aient des comportements tout à fait déviants, notamment, par exemple, on a vu ça, je ne jette pas la pierre parce qu'ils sont totalement en dehors de l'Église et de la catholicité et de la tradition, mais vous voyez des gens, soi-disant des hommes politiques, qui ont préféré sabrer leur mouvement plutôt que de passer le relais à des hommes compétents, on a préféré choisir le nom, et le nom en plus porté par sa fille. On est dans l'aberration, mais encore une fois, loin de moi d'attaquer qui que ce soit là-dessus, puisqu'on est vraiment totalement en dehors des sphères catholiques. Mais il se trouve que, vous voyez, il se trouve qu'il y a une réalité, c'est que le mari, le père, le fils, le frère, doit comprendre qu'il est investi d'une dignité et que cette dignité peut, à tout moment, être l'objet d'un déshonneur. Il ne s'agit pas de provoquer maintenant les gens en duel, etc. Et ça, c'est un autre excès. Maintenant, il se trouve qu'il faut prendre conscience que non seulement il y a un déshonneur à laisser sa femme, sa mère, sa sœur, etc., se mêler de ces affaires-là, mais il y a aussi, il ne faut pas s'imaginer que un homme, par exemple, un militant, par exemple, hein, parce qu'il n'y a que ce genre de créature qui peut se livrer à ces choses-là, et encore d'autres, peut-être, qui écoutent, des consommateurs de militance, qui, par exemple, fait une émission avec une femme. Par exemple, on fait une émission contre le féminisme et on invite une femme antiféministe. Eh bien, ces personnes-là se sont comportées, ils se sont mal comportés vis-à-vis des auditeurs, des hommes. Des hommes qui les ont écoutés, qui ont eu la faiblesse de les écouter. Mais ces hommes-là se sont comportés vis-à-vis de cette femme exactement de la même manière s'il lui avait manqué de respect, s'il l'avait déshonoré, s'il l'avait violenté. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas un peu fort ce que vous dites? Non, ce n'est pas. Parce que le fait de faire sortir une femme, a fortiori une jeune fille, de l'obscurité où elle est, de la tutelle où elle est, de son père, de son mari, que sais-je, et de l'Église, et pour la mettre en public, c'est-à-dire la mettre, en fait, la mettre aux yeux de tous. Alors on va dire, on n'a écouté que sa voix. C'est déjà trop, vous voyez, c'est déjà trop. La mettre aux yeux de tous, mettre son âme, si elle a prétention intellectuelle, mettre son âme aux yeux de tous, la faire parler, donc l'exposer, vous voyez, aussi à la critique. Alors vous allez dire, elle est forte, c'est une guerrière, attention, ne dites pas n'importe quoi. Vous l'avez exposé au déshonneur. Une jeune fille qui fait des vidéos et qui s'imagine, ensuite qui est vue par des milliers de gens, Parmi ces milliers de gens, il y a eu des milliers de gens qui la regardent pour des mauvaises raisons, surtout si elle est indécente. Et cette fille-là est absolument, elle est dans une situation qui est pire face au mariage que si elle avait été violentée par un gredin qui passait par là et qu'elle, contre son gré, et qu'elle avait été déshonorée contre sa volonté. C'est comme si elles étaient déshonorées volontairement. C'est une chose qui n'existe pas, me semble-t-il, dans la nature humaine. Il y a des gens, il y a des femmes qui proposent certaines choses pour des moyennant d'argent, et c'est un déshonneur, mais au moins c'est un déshonneur qui a son honneur, puisqu'il est, c'est un commerce. Il y a des personnes qui sont victimes, bon ça ce sont des personnes qui ont un faux déshonneur, en quelque sorte, puisqu'elles n'ont pas consenti à ce qui s'est fait. Et puis après, il y a des choses extraordinaires qui font que ce sont des personnes qui se livrent elles-mêmes au déshonneur. Une femme qui enseigne publiquement, une femme qui se fait voir publiquement, et même d'une façon décente, hein, même quand bien même serait-elle décente, c'est pas impossible, c'est une, ou qui se ferait entendre aussi, parce qu'il y a des femmes qui enseignent mais qui ne se font pas voir. Eh bien, il se trouve que tout celui-ci, c'est l'équivalent que si c'était l'équivalent d'une femme qui se livre à n'importe qui par vice. C'est quelque chose de monstrueux, et ça ne devrait même pas être mentionné parmi les saints que nous sommes, mes très chers frères. Donc, il se trouve que exhiber une femme qui fait une conférence antiféministe et qui critique Simone de Beauvoir et tout le monde, eh bien, c'est et dire que c'est très bien et relayer, comme on dit, hein, sur les réseaux sociaux qui ne devraient pas exister, relayer son truc en disant voilà, ça c'est le contraire du féminisme, etc. C'est faux. C'est non seulement faux, mais c'est ignoble. C'est non seulement ignoble, mais c'est déshonorant. Et je dirais même, parce qu'on peut dire encore plus, que celui qui écoute ce genre de conférence-là et qui on arriverait à être instruit. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'elles sont incapables ou qu'elles disent des choses fausses, et ça n'a strictement rien à voir. Malheureusement, ça n'a strictement rien à voir. La plupart du temps, c'est de très grande qualité. Ce n'est pas de ça le problème, sous un certain rapport. Hein. Ça n'a aucun rapport, ne vous méprenez pas. Celui qui écouterait ces choses-là et qui apprendrait quelque chose est semblable à un homme qui aurait été violenté par une femme, ce qui est la chose la plus ridicule qui puisse exister au monde. Tout le monde en convient. Mais alors, volontairement, c'est ridicule. C'est ridicule. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit « Taceat mulier in ecclesia ». Et il se trouve que c'est un commandement absolu. C'est un commandement total, absolu, et qui même déborde simplement les simples femmes, puisque tout ce qui est symboliquement dans une position d'infériorité dans l'Église doit se taire. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais nous ne voulons pas nous égarer de notre sujet. Donc, il y aurait tant de choses à dire là-dessus, mes très chers frères. Nous vivons dans un monde sans honneur, et les hommes d'aujourd'hui, les hommes qui se disent antiféministes, etc., s'imaginent qu'ils sont des bons hommes parce qu'ils ont des gros muscles, parce qu'ils prennent de toutes sortes de choses, et puis puisqu'ils vont faire des courses dans les bois, et puis parce qu'ils tapent sur des sacs de sable, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas forcément utile, mais ça dépend de l'État, encore une fois. Mais je dis, ce n'est pas ça qui fait la virilité. La virilité, c'est le fait, est caractérisé par deux choses. La lieutenance divine et l'honneur qui en découle. La lieutenance divine, c'est d'exceller partout dans tous les sortes d'états et de devoirs, c'est d'exceller dans le rôle que Dieu a donné à l'homme. Et de ne pas se laisser aller à la paresse ou se laisser aller à l'infidélité vis-à-vis de Dieu. Maintenant, il se trouve qu'il y a une deuxième chose, c'est que l'homme doit être jaloux de l'honneur qui est dû à son rôle de lieutenant, je veux dire même de vicaire du Christ, à son niveau, bien entendu, c'est sans préjudice pour le pape, mais à son niveau. C'est-à-dire de représentant, de lieutenant du Christ, de Dieu. L'homme doit être jaloux de son honneur. Non pas jaloux de son honneur comme une sorte de mesquin qui est tout le temps en train de faire des commentaires sur les bonnes femmes qui font des vidéos. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ces choses-là n'existent pas. Ces choses-là n'existent pas, et si elles viennent à croiser notre route, il faut s'en détourner comme on se détourne de quelque chose d'indigne de nous. Non pas indigne de moi, mon petit moi qui est un imbécile, mais indigne de moi tel que Dieu m'a investi de sa lieutenance et tel que je dois l'assumer pour le salut des âmes, indirectement mais très réellement, de ceux qui me sont adjoints et qui me sont donnés comme inférieurs. Il y aurait bien sûr encore des choses à dire dans ce chapitre, mais très chers frères, nous devons nous arrêter là. Concluons par ces quelques paroles. Son mari sera illustre de l'assemblée des juges lorsqu'il sera assis avec les sénateurs de la terre. La femme qui est forte, la femme qui est campée dans son devoir, la femme qui demeure dans son état, la femme qui transmet aux jeunes femmes, à ses filles et aux jeunes femmes dont elle peut avoir la tutelle, qui transmet ce qu'elle a reçu et ce qui est de son devoir, celle-là, c'est celle qui contribue grandement au fait que son mari est illustre. Son mari sera illustre dans l'assemblée des juges, lorsqu'il sera assis avec les sénateurs de la terre. Et ensuite, ça c'est pour du point de vue du mari, ses enfants se sont levés, donc ses fils se sont levés, et ont publié qu'elle était très heureuse. Son mari s'est levé et l'a louée. Une femme ne pourra jamais recevoir de véritables éloges, sinon de ses fils et de son mari. Parce que tous les éloges que l'on donne à une femme, en dehors de cela, sont des éloges finalement que l'on pourrait donner à quelqu'un qui n'est pas une femme. Lorsqu'une femme fait une excellente conférence à une université d'été, que sais-je, etc., et puis qu'elle a enseigné aux hommes et aux femmes à toutes sortes de choses, etc., et puis qu'elle est applaudie, ovationnée, etc., mais un homme qui aurait fait une excellente conférence serait aussi applaudi et ovationné. Une femme qui a réfuté de A à Z le féminisme, etc., et qui est... Mais un homme serait capable de le faire aussi. La seule louange qu'une femme peut recevoir, c'est la louange qu'elle peut recevoir, abstraction faite de Dieu et de l'Église, bien entendu, mais c'est la louange qu'elle peut recevoir de ses fils, c'est-à-dire des enfants qu'elle a mis au monde, des enfants légitimes qu'elle a mis au monde et qu'elle a élevés dans la crainte de Dieu, et de son mari. La femme qui est louée par ses fils et son mari reçoit des louanges qui ne peuvent, en tant que telles, être adressées à personne d'autre. Aucun homme, aucune femme autre, aucune religieuse, aucun pape ne peut recevoir les louanges qu'une femme forte reçoit de ses fils et de son mari. Pourquoi ? Parce que ce sont des louanges qui correspondent à la valeur de ce qui est la sienne à cause du fait qu'elle est restée campée dans son état. Ce sont des louanges tout à fait spécifiques. Ses enfants et ses fils se sont levés et ont publié qu'elle était très heureuse, bien heureuse en réalité. Nous avons des choses très très belles dans l'histoire de l'Église. Nous avons des textes, j'oublie les noms là sur le moment, mais des textes où on a le texte d'un évêque, d'un père abbé, ou d'un évêque je crois, et qui a écrit la vie de sa mère, et qui a écrit la vie de sa mère, qui était une, enfin bon, peu importe, mais qui décrit comment sa mère l'a élevé, lui et ses frères, d'ailleurs il avait un autre frère qui était aussi abbé, quelles ont été les vertus de sa mère. Ce sont des textes d'une très grande beauté, ce sont des textes qui sont absolument inimitables. Écrire la vie d'un saint pape, écrire la vie d'un saint évêque, et écrire la vie d'un saint confesseur, ce sont des louanges propres à ces états-là. Écrire la vie d'une sainte femme, c'est une louange propre à cette sainte femme. Et la femme forte ne peut être louée que par son mari et par ses enfants, et par conséquent par les sénateurs de la terre, c'est-à-dire par tout ce qu'il y a d'honnête chez les hommes et chez les grands et chez les puissants. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint le Seigneur est celle qui sera louée. Il ne s'agit pas ici de déprécier les dons de la nature, il s'agit de dire que ce qui fait le propre de la femme forte, c'est la crainte du Seigneur. Et la crainte du Seigneur, mes très chers frères, c'est en quelque sorte le moteur et l'âme, avec l'amour du Seigneur bien entendu, la charité, l'âme de la femme forte, de telle sorte que c'est cela, et tout s'explique, c'est cela qu'elle peut transmettre. On ne peut pas transmettre la crainte du Seigneur par des conférences. On ne peut pas transmettre la crainte du Seigneur par des podcasts, des choses comme ça. Il faudrait que je me lave la bouche après avoir prononcé ces mots-là. La crainte du Seigneur ne peut être transmise qu'avec le devoir d'État, l'apprentissage du devoir d'État, dans le cadre ordonné, je parle pour les femmes chrétiennes, de la famille, c'est-à-dire du mariage et de la soumission au mari. C'est la seule façon qui est possible. Et à ce prix-là, mes très chers frères, mes très chères sœurs, c'est à ce prix-là que ses enfants, à la fin de sa vie et après sa vie, se lèveront et on publieront qu'elle est très heureuse et que son mari s'est levé, signe d'honneur, et l'a louée. Mes très chères sœurs, soyez dignes de Dieu, visez à être des femmes vertueuses et des femmes fortes, dignes de leur mari, ordonnées à leur mari. Et sachez bien, mes très chères sœurs, que vous ne pourrez pas faire votre sanctification, vous ne pourrez pas être réputée soumise à Dieu si vous n'êtes pas soumise à votre mari. Parce que le lieutenant de Dieu pour vous, c'est votre mari. Que Dieu vous aide et nous aide tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.